Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse loisir. Au menu, des voyages, des conseils de lecture, de la cuisine et du cinéma. La journaliste Sandrine Mercier poursuivra sa découverte de la route des vins, cher à Guillemette Odissino. On se demandera comment voyager sans trop polluer ni dégrader des sites exceptionnels comme les Calanques ou encore le parc national du Mercantour. Notre chef Grégory Cohen vous rafraîchira avec une recette pré-estivale. Et puis le toujours fringant Julien Bisson vous conseillera des livres destiné à la jeunesse. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Ne soyez pas jaloux, vous êtes fringant également. Vous nous proposez ce matin une petite philosophie d'actualité.
Et oui, parce que nous pouvons nous dévisager depuis 48 heures, alors dévisageons-nous les uns les autres, c'est l'invitation ce matin.
Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
La dame du vendredi qui met son grain de sel tout au long de cette émission. Pour ce week-end, un film qui me rend systématiquement heureux.
Absolument, et étrangement, ça va vous rafraîchir aussi, même si c'est avec la sensualité de Marilyn Monroe.
Bonjour Maya Mazorette.
Salut.
La dame du vendredi qui ne supporte pas qu'on la vouvoie pendant
mais
sa chronique sexe.
Parce qu'on est intime,
sexe.
Ali. À un moment, on est intime, il faut y aller.
Au menu ce matin.
Au menu ce matin, on va se déculoter les uns les autres après s'être dévisagé, puisqu'on va parler d'esthétique, des belles choses, des beaux pénis.
Eh ben dis donc, ça promet.
Ah ouais.
N'hésitez pas, calmez-vous.
Pardon.
Calmez-vous, Guillemette Odissino. N'hésitez pas à réagir au fil de l'émission sur la page Facebook de l'émission et au standard de France Inter. Quelles sont vos initiatives personnelles pour ne pas dégrader certains sites touristiques? Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Ali Rebéi.
Vous savez que vous manquez à Maya Mazorette, hein?
Oui, j'étais en train de dire ça il y a un instant.
Vous êtes notre chef du vendredi. On attend avec impatience l'ouverture de votre restaurant, le Père Joseph, à Ruel Malmaison, dans quelques mois. Vous êtes à Marseille, là. Et vous nous proposez d'ailleurs une recette pré-estivale pour bien se rafraîchir.
Mmh. Exactement. Je suis allé pas très loin, du côté de Cavaillon, pour récupérer un melon. Et ce melon, on va le creuser, on va l'utiliser comme un récipient et on va faire un melon surprise, une déclinaison du classique melon jambon.
Ça promet. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef du 1 Hebdo à la une cette semaine.
Eh bien écoutez, on se demande si Anne Hidalgo est une chance pour la gauche, avec un entretien fleuve avec la maire de Paris en mode fluctuac, necmer qui tourne.
On commence avec vous Julien Bisson, avec le nouvel album de Zep qui part en colo. Ça s'appelle La Grande Aventure et c'est publié chez Glénat.
Et oui, parce qu'aujourd'hui c'est le 18 juin, donc je me suis dit 18 juin, jour d'appel, et j'ai envie de vous lancer un appel de la forêt, des grands espaces naturels, des torrents, des papillons, des sauterelles, des temps de Quechua. Bref, pour cette émission, on va parler notamment de tourisme responsable. Je vous propose, vous l'aurez deviné, de partir camper en pleine nature et partir camper avec Titeuf. Alors Titeuf, vous savez, c'est ce personnage qui est quand même assez incroyable, créé il y a presque 30 ans maintenant, qui a donc déjà été adopté par deux ou trois générations d'enfants bercés de ses pitreries, de ses réparties, de ses expressions rentrées dans le langage commun. Chaud les nazes.
Merci.
Pour ce 17e album, et c'est le premier depuis 8 ans, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de nouvel album de Titeuf, son créateur Zep a décidé de quitter la cour de récré, la cellule familiale, les copains habituels et les parents pour une aventure un peu plus étoffée que d'habitude, direction le camp du Bois des Ours, pour une colonie de vacances au grand air, l'occasion de goûter aux joies des toilettes sèches, je sais que vous aimez beaucoup, Guillemette, des corvées de vaisselle ou des booms de fin de séjour. Mais puisque nous sommes en 2021, Titeuf et ses nouveaux copains vont aussi apprendre à faire, mais écoutez, un camp vert. Donc apprendre à faire du compost, à récolter du miel, à planter des arbres, à pratiquer le yoga. Un peu d'écologie passée en contre-bande dans une histoire où il y a plus de zizi sexuel que de téléphone portable, d'obsédé du slip que de TikTok. Et comme Zep a eu la bonne idée d'allonger un peu son récit par rapport aux albums précédents, ça lui permet d'abandonner un peu le carcan du livre à gag d'une page pour une histoire au long cours qui fleure bon les chasses au trésor et l'aventure au grand air. On ne souhaite pas beaucoup plus pour cet été. Vous l'avez dit, ça s'appelle La Grande Aventure, c'est chez Glénat.
Tchou les nazes. Je ne sais pas si je vais le dire à Laurence Bloch, notre respectable et respectée directrice. Tchou les nazes. Oui, je ne sais pas. Pourquoi pas. Vos souvenirs de colonies de vacances, de scoutisme autour de la table, Thibaut de Saint-Maurice?
De merveilleux souvenirs, parce que d'abord, on est, comment dire, sans les parents, ce qui, à un certain âge, est assez sympathique, même si on adore nos parents. Et surtout parce que il y a ce truc d'aller camper, il y a ce truc hein, pour les petits urbains que, enfin, en tout cas le petit urbain que j'étais, de changer de rythme totalement quoi. Et quelle que soit la structure, le camp, le truc, le machin, le fait de se réveiller avec la rosée, voilà, au bord de la tente, je crois que c'est assez génial et je souhaite vraiment à tous les enfants de le vivre.
Moi j'ai la nostalgie des colonies générales avec le brassage de plein de gens issus de milieux sociaux différents. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a des colonies très spécialisées, très thématisées. Et moi, je me souviens des colonies organisées par la mairie de Toulouse ou par la SNCF. C'était des souvenirs assez extraordinaires du côté d'Antichamp des Frontignes, Haute-Garonne, ou du côté d'Anvetch, avec une colonie qui s'appelait la Montagna. C'est vrai que c'est des souvenirs magiques au possible. Guillemette Audissimo.
Bah, je vous envie. Je vous entends tous les deux là parler de ça. Moi, ma maman était trop inquiète. Et elle voulait pas m'envoyer en colonie de vacances. Et toutes mes copines me racontaient des trucs dingues, des feux de camp et tout. Et moi, j'ai été privée de colo.
Julien Bisson.
Oui, moi je me souviens de colonies. Je me souviens en effet, les meilleurs moments, c'était les soirées autour du feu de camp. Oui. On avait l'impression que d'un seul coup, on allait pouvoir passer toute la nuit là-bas. Je pense qu'on se couchait en fait à 21h, mais que ça c'était beaucoup plus tard.
Waouh.
Mais qu'on avait l'impression d'être des vrais adultes qui pouvions le lendemain montrer nos blessures étant évidemment les piqûres de moustiques qu'on s'était chauffées pendant toute la nuit.
Maïe Mazorette, souvenir de colo?
Plutôt quand j'étais adolescente, et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on est plus plongé dans un espèce de bain d'hormones avec des personnes qui n'ont pas forcément exactement notre âge, donc c'était plutôt un apprentissage des différentes transgressions possibles.
Oui, ça me rappelle les camps d'ados, pour ma part, en Italie, à 16-17 ans, c'est voilà.
C'est souvent la première
tarte de cigarette, le premier
baiser.
On a envie d'en savoir plus,
Ami. Je laisse votre imagination, voilà. Julien Bisson, vous teniez ce matin à évoquer des livres consacré au football pour les enfants, idéal à lire en ce moment pendant l'Euro.
Oui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment, il y a des gens qui jouent au football un peu à travers l'Europe. Vous saviez?
Non,
parce que vous savez, demain, si vous ne saviez pas, demain, il y aura un match des Bleus. Et ce match, il sera à 15h. À 15h, soit une heure, vous n'aurez pas la liberté de dire à vos enfants: non, mon chéri, pas ce soir, demain, il y a école, alors tu files vite au dodo avant la fin des hymnes. Non, demain, si tant est qu'ils soient un peu curieux de ce qui se passe sur le pré, vous allez devoir regarder 90 minutes de France-Hongrie avec eux, soit une épreuve pour tous ceux qui ne connaissent pas la différence entre un corner et une sortie de but, entre un hors-jeu et un pénalty, entre Antoine Griezmann et Adam Salaï, Maya, vous le savez, c'est l'attaquant star de l'équipe Magyar.
Il faut planter ses enfants devant la télé et partir faire autre chose, enfin.
Alors, pour être capable de répondre à votre tout petit...
Enfin, les grands, ils peuvent aimer le foot aussi, hein, sur un malentendu. Hein.
C'est vrai. Pour être capable de répondre à votre tout petit, qui ne manquera pas de vous demander à un moment du match, mais dis-moi, un défenseur, est-ce qu'il peut remettre en jeu un attaquant dont le hors-jeu a été signalé par la VAR en touchant le ballon avant qu'il l'atteigne? Bon, bah, si vous avez besoin de savoir la réponse à cette question évidemment fondamentale, les éditeurs ont décidé de multiplier en cette saison les ouvrages sur le football, et ce, pour tous les âges, justement, qu'ils mettent. Pour les plus petits, vous avez Timothée joue au foot, Bébé Koala joue au foot, Choupi joue au foot, Mini Lou champion de foot, ça change un peu. Pour les un peu plus grands, vous aurez une série de BD fans de foot sous le patronage de Jenny Le Sommer et Olivier Giroud, qui visiblement a le temps de faire des BD quand il ne joue pas. Des cahiers d'activités, des cahiers de coloriage. Et même dans la collection Simplissime, vous savez, cette collection pour la cuisine d'habituellement, le livre pour tout savoir sur le foot le plus facile du monde, adressé aux 7-10 ans, mais que certains, plus vieux, peuvent aussi relire. Je pense à vous, Guillemette, qui me demandait tout à l'heure, mais quand est-ce qu'il joue Platini?
Mais c'est pas vrai, en plus je suis vraiment bonne en foot, c'est méchant ça.
Si vous n'avez pas d'enfant et qui préfère aller jouer dehors plutôt que de se planter devant une TV, je vous recommande pour ma part la lecture d'un essai dont le titre « Une passion absurde et dévorante me rappelle votre goût, Ali, pour le bouturage et Rostremir ». C'est un livre signé Olivier Guèze, sous-titré « Écrit sur le football » et qui loue les émotions de ce sport ancré dans l'histoire, qui brasse l'identité, la créativité, les passions contraires de quasiment toutes les civilisations. Guèze y raconte le destin de l'Amérique du Sud à travers celui de Maradona. Il raconte les tensions raciales dans le dribble brésilien pour montrer comment les joueurs de couleur devaient éviter la rugueur des joueurs blancs. Les étincelles d'extrême droite également dans les stades d'Europe centrale. Il dit en fait avec poésie la beauté de ce jeu. Il y écrit ceci: je plains les réticents, les snobs et les stoïques. Ils ne connaîtront jamais les sensations que procure la soumission à ce jeu débile où des hommes et des femmes poursuivent un ballon et poussent des cris orgasmiques après l'avoir propulsé dans des filets. Voilà, ça s'intitule « Une passion absurde et dévorante ». Et c'est un livre non pas bête comme les pieds, mais au contraire intelligent comme les pieds de Mbappé.
Thibaut Thibaut de Saint-Maurice ?
Moi, je vais consulter toute la liste parce que j'avoue que je fais partie de ces gens qui ne comprennent pas très très bien la règle du hors-jeu.
Et moi, j'aimerais bien que ça existe en baseball, hein, si possible. Parce que c'est, ça, c'est l'un des sports vraiment où on a du mal à comprendre.
Ah, le cricket.
Le cricket.
Ah, c'est le cricket, c'est pas mal aussi.
Grégory... Et personnellement, je propose une niche alternative qui serait comment échapper au foot. Ça aussi, on a besoin de guide pour ça. Comment se boucher les oreilles quand les gens klaxonnent pour 3h du matin pour fêter la victoire.
Grégory Cohen.
J'ai adoré Julien avec sa, quand il limite l'enfant, sa voix qu'il a fait est tellement proche de la réalité qu'il voyait déjà, j'entendais mon fils me poser des questions incroyables, Julien.
Ça vous a pas gêné, vous ? Moi, ça m'a un peu gêné. J'étais un peu gêné. Tiens, on n'a pas évoqué vos souvenirs de colo, Grégory Cohen.
J'allais vraiment à la colo. Mon premier baiser, évidemment, 12 ans dans un sous-bois dans le Périgord. Et puis j'allais à la colo Bambi en hiver, parce qu'il y a aussi des colos en hiver. Et on était plusieurs. On dormait dans des chambrées. On allait faire du ski. On se faisait les chamallows grillés sur le feu de bois. Mmh. C'était juste exceptionnel ces moments-là.
Et vous retrouvez tous les conseils de Julien Bisson sur l'appli et sur le site de France Inter. Dans un instant, comment ne pas être un touriste qui pollue et saccage certains sites trop fréquentés ? Éléments de réponse dans un instant. En attendant, on écoute et ça danse déjà dans le studio. Téléphone.
Ça, c'est vraiment toi.
téléphone, ça c'est vraiment toi.
La nature, quand ça commence à être beau, c'est beau, hein.
Grand bien vous fasse.
Je bois à la mer nature, aux collines odorantes. Je bois aux cigales, à la brise, aux roches millénaires.
Sur France Inter.
10h21, grand bien vous fasse loisir, et à quelques semaines des vacances d'été, comment ne pas trop polluer, ou comment ne pas polluer carrément, comment ne pas dégrader les sites touristiques très fréquentés.
Ne plus communiquer, ou pratiquer ce que l'on appelle le démarketing, comme le fait le Parc des Calanques depuis déjà quelques semaines, en publiant ses photos peu engageantes de foule. Pourtant la foule, elle, est toujours là, comme lors des derniers week-ends, avant le confinement.
Montrer à celui qui va venir dans cet espace ce qu'il va vivre. Donc il peut vivre effectivement des moments de quiétude, mais il y a des moments où il sera avec beaucoup de monde sur des plages qui sont très restreintes.
Extrait du JT de TF1 du 23 avril dernier. Bonjour Rémi Knafou.
Bonjour Ali Rebéi.
Vous êtes géographe, professeur émérite de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, créateur du Festival international de géographie de Saint-Dié des Vosges. Et vous venez de publier aux éditions du Faubourg « Réinventer le tourisme, sauver nos vacances sans détruire le monde ». Et vous êtes en ligne depuis l'Islande, c'est ça?
C'est bien ça, oui.
Bonjour Jean-Baptiste Tréboul.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la publication de la revue Espace, une revue de tourisme et de loisirs. Et à la une, 1000 raisons de croire à un tourisme responsable, positif et joyeux. Bienvenue Laurent Tillon, habitué de cette émission.
Bonjour Ali, bonjour à toute l'équipe.
Responsable biodiversité à l'Office national des forêts. Bonjour Sandrine Mercier.
Bonjour Ali, bonjour.
Rédactrice en chef de l'excellente revue AR consacrée aux plus belles routes du vin.
C'est un camping-car.
Question simple Rémi Knafou, comment le tourisme contribue-t-il à la dégradation de l'environnement planétaire? Évidemment, toute activité humaine a un impact sur l'environnement, mais quelle est la particularité du tourisme?
La particularité du tourisme, c'est d'abord qu'il est très nombreux. Nous sommes très nombreux à faire à faire du tourisme, et de plus en plus, enfin jusqu'au coup d'arrêt de la pandémie, évidemment. Et que, par ailleurs, nous sommes attirés par des sites de qualité. Mmh. Et donc, nous avons une propension maintenant tout à fait naturelle à les saturer, voire, dans certains cas, à contribuer à les dégrader. Mmh.
Quelle est la part du tourisme, Rémi Knafou, dans le réchauffement climatique?
Elle est très difficile à établir, parce que il y a différents types de tourisme. On n'arrive pas à comptabiliser facilement tous les transports qui concourent au tourisme, qui est un secteur composite qui est difficile à déterminer, mais c'est une part importante, indiscutablement, c'est une part importante à l'heure actuelle, et c'est la raison pour laquelle on propose, dans le livre que je viens de sortir, je propose effectivement d'aller vers un tourisme qui soit plus réfléchi, plus régulé, plus organisé, parce que nous en avons besoin. Les flux touristiques vont reprendre, et on ne sait pas s'ils vont repartir de façon exponentielle tels qu'ils étaient jusqu'en 2019, mais de toute façon ils vont reprendre, et nous avons à faire face à un tourisme qui affecte une partie croissante de la population, puisque un des critères les plus sûrs de l'élévation du niveau de vie dans les pays en développement, c'est l'accès aux pratiques de loisirs et aux pratiques de tourisme. Et c'est ce qui se passe en Chine et en Inde en premier lieu, et où il y a des centaines de millions de personnes qui accèdent à ça et qui ont envie de découvrir des lieux autres. Ce que les Européens ont fait il y a deux siècles, les autres ont envie de le faire maintenant. Et nous serions bien mal placés pour les empêcher de le faire. Mmh.
Jean-Baptiste Tréboul, qu'appelle-t-on exactement sur-tourisme, un mal dont souffrent certaines destinations en France et dans le monde?
Alors, juste un petit mot, d'abord sur les chiffres qui circulent, hein, sur la part du tourisme, c'est 8% hein, des émissions de gaz à effet de serre, c'est ce qui est publié aujourd'hui, et le transport aérien c'est 3%. Donc c'est une part qui est quand même significative et tout le monde est vraiment concerné, le tourisme au premier chef. Le surtourisme, si vous voulez, c'est ce que disait Monsieur Knafou à l'instant, c'est-à-dire c'est d'aller tous au même endroit, au même moment, et je dirais même aux mêmes heures. Et c'est ça le vrai souci, c'est que tout le monde se concentre sur les spots les plus beaux. Mais en même temps, tout le monde a envie d'aller au même endroit, donc c'est quand même compliqué à gérer. Et on peut pas non plus dire que les gens n'ont pas envie d'être ensemble au même endroit, au même moment. Les gens qui ont envie d'être sur une plage déserte, c'est pas la règle générale non plus. Visiter une ville seule, c'est triste aussi. Donc, c'est pas si simple dans la sociologie des personnes. Ils veulent aussi être ensemble.
Rémi Knafou, est-ce que vous êtes avec nous, Rémi Knafou?
Oui, je suis là. Oui, je suis là.
Votre réaction à ce qui vient d'être dit?
Absolument. Absolument. C'est un des paradoxes du tourisme, effectivement. C'est que même si le système essaye de plus en plus face à certains excès, à certaines images auxquelles vous faisiez référence en introduction de lieux saturés, de proposer aux gens d'aller ailleurs, force est de constater que le gros de la troupe aime aller là où il y a du monde. Et d'ailleurs, ça se vérifie de manière expérimentale dans bien des situations. Quand vous avez le long d'une promenade 25 restaurants et que deux ou trois sont déjà quasi pleins, les nouveaux clients vont aller vers ceux qui sont déjà pleins. Donc il y a une sorte d'instinct grégaire, ou alors on peut penser que si les gens sont là, c'est qu'ils ont bonne raison d'y être, et que s'ils sont pas ailleurs, c'est qu'ils ont fui. Donc voilà, nous avons une propension à nous agréger qui fait que effectivement nous pouvons et nous saturons très régulièrement des sites. Mais face à cette situation, il y a des réponses, mais à la condition que les gestionnaires de sites aient envie de réguler aussi les flux. Par exemple, d'instaurer des quotas, et quand il y a des sites extrêmement fragiles, bon, il est possible aussi de prononcer des interdictions provisoires, voire des interdictions totales. Mais ce qui me frappe aussi dans le système touristique, c'est que il est quand même très hypocrite. C'est-à-dire qu'à la fois, on nous vend la durabilité, la responsabilité, tout ce qu'il faut faire, etc. Mais on nous incite sans arrêt à aller vers ces sites constamment. Là, vous avez fait référence au fait que j'étais en Islande. Il y a un canyon qui est très fréquenté en Islande parce qu'il a été popularisé par une série télévisée où on y a
Game of Thrones.
Et du coup, voilà. Et du coup, beaucoup de touristes veulent y aller. Et ça provoque des excès, notamment de piétinement. Et les autorités islandaises, à un certain moment, ferment le site parce qu'il y a trop. Mais en même temps, quand on arrive à l'aéroport de Keflavik, la première chose qu'on voit, ce sont des photos de ce canyon. Donc vous voyez à quel point le système est soit hypocrite, soit les deux d'ailleurs, est contradictoire, puisqu'à la fois on nous dit qu'on fait mal et on fait trop, et en même temps on nous incite à continuer à y aller. C'est ça le système dans lequel on est.
Sandrine Mercier de la revue AR.
Mais c'est vrai qu'on assiste quand même à la fin d'un modèle. Hein. Ça fait à peu près 15 ans qu'on était aussi sur une manière de voyager sous forme de city break. On partait en court séjour avec un low cost pour aller à Barcelone, à Cracovie, à Dubrovnik ou à Venise. Donc voilà, on avait 3 jours, on part là-bas. Donc les habitants ont commencé quand même à râler. Ils manifestaient leur ras-le-bol de voir des milliers, des millions de touristes dans leurs rues. Ils vendent leur maison, leur appart, parce que c'était plus vivable. Et du coup, on se retrouve avec des villes un peu muséifiées, comme à Dubrovnik ou Venise. Du coup, là, je crois qu'on arrive à la fin d'un système avec la pandémie. Ça s'est déroulé comme ça pendant 15 ans. Là, le système est en train de se gripper. Les gens ont découvert pendant un an et demi quand vous avez 2-3 jours devant vous, vous n'aviez jamais visité les alentours, les environs, les petites routes de France. Et on a retrouvé une nouvelle forme d'exotisme en France. Et là, maintenant, je pense que le système ne continuera plus comme avant.
Oui, mais Sandrine Mercier, certains lieux en France ne sont pas du tout, plus du tout adaptés pour recevoir un trop grand nombre de touristes. Je pense au Calanque, évidemment, au Calanque de Marseille, mais également au Parc National du Mercantour, avec par exemple un record de fréquentation au lac d'Alos, avec certains jours, 1500 personnes qui foulent un lieu peu adapté à une telle foule.
C'est vrai, vous avez raison. L'été dernier, les sites ont été pris de court, en fait. Des endroits dans le Cantal ou dans les Pyrénées se sont retrouvés sous un flux inattendu. Alors, ils sont en train quand même de retravailler, effectivement, les collectivités qui accueillent en disant, avant, voilà, maintenant, ils vont prévoir quand même des itinéraires bi, je veux dire, proposer aux voyageurs, aux touristes, d'autres types de chemins, d'autres types de visites pour désengorger les sites majeurs. C'est vrai que du coup, il faut avoir aussi la curiosité de visiter autre chose que les gros spots incontournables, on va dire. On est aussi plus curieux. L'instauration de quotas, dont parlait Rémi Knafou, c'est pas très facile non plus. Il y a aussi cette idée de désaisonnaliser. Là, on part tous entre le 15 juillet et le 15 août. C'est merveilleux, effectivement, au mois de mai, au mois de juin, au mois de septembre. Peut-être profiter d'avoir des vacances un peu plus échelonnées pour pouvoir échelonner aussi les visites et éviter l'engorgement.
Guy Métodicino.
Mais je reviens sur cette notion effectivement d'hypocrisie entre il faut préserver les sites, mais on met des affiches partout pour donner envie aux gens d'y aller, mais c'est parce qu'il y a aussi des régions qui ne vivent que du tourisme. Donc si on ferme certaines zones ou si on les interdit, il y a des régions qui vont avoir des problèmes en fait bêtement financiers. Toute la Côte d'Azur, si vous fermez tous les beaux sites de la Côte d'Azur, ça, ils vivent comment?
Jean-Baptiste Tréboul.
Oui, moi je pense que avant de fermer ou de mettre des quotas ou d'empêcher les gens de voyager ou de visiter, on peut déjà élargir les horaires. Je veux dire, on peut voir un site, il n'y a pas que les couchers de soleil, hein, il y a les levers de soleil aussi, on peut visiter la nuit. Enfin, on peut inventer plein de solutions pour fluidifier les flux et faire circuler les gens avant de prendre des mesures coercitives et d'empêcher les gens de découvrir des choses très belles. Alors, on dit... Oui, il y a des sites où il y a plein de monde, on n'arrive plus à les accueillir. C'est quand même une minorité. Alors, c'est celle-là qu'on parle, donc il y a un effet médiatique qui est fort. Il y a 90 à 95% des sites en France où qu'on peut visiter sans aucun problème et qui sont très beaux. Donc, voilà, je pense qu'il faut relativiser un peu et trouver des solutions un peu pragmatiques pour permettre aux gens de continuer à découvrir les richesses de notre pays et des pays voisins. Il n'y a pas qu'en France hein, où on vit beaucoup du tourisme. Dans beaucoup de pays, il y a des retombées très fortes en termes d'emploi, mais pas seulement, en termes d'agriculture locale, en termes d'activité, de transport. Je veux dire, les emplois dans le tourisme, c'est environ 10% de l'activité touristique, c'est 10% de l'activité mondiale, et c'est plus de 300 millions d'emplois. Et on dit que c'est 10% des emplois dans le monde, mais presque 20 si on ajoute les chauffeurs de taxi, le gars qui vend des cartes postales, le café, etc. Donc, si vous voulez, on ne peut pas faire disparaître un secteur économique mondial qui pèse aussi lourd. C'est quand même très dangereux, et puis c'est aussi très dommage, parce que les gens circulent, qu'ils se rencontrent et qu'ils partagent quelque chose, c'est quand même extrêmement important. Sur un plan moral, philosophique, presque politique, si vous voulez.
Julien Bisson.
Donc, il faut faire quand même attention à... Si vous voulez, je pense qu'il y a une minorité de gens qui veulent que plus personne ne voyage. Et il y a une minorité de gens qui veulent continuer à faire comme avant, comme si de rien n'était. À mon avis, ces deux catégories-là ont tort. La majorité des gens, ils veulent s'adapter et voyager responsable.
Oui, mais la question en effet de la surconsommation de ces sites protégés qui peuvent amener un peu à leur destruction, ça pose la question, comme vous le disiez, de la régulation. Vous en avez parlé des quotas, en effet, il y a des quotas qui existent. Il y a des sites, par exemple, des sites de plongée nautique, comme celui de Sipadan au large de Bornéo, qui est un des plus beaux sites du monde, dans lequel il y a des permis de plongée qui sont limités à la journée. Mais après, il y a d'autres alternatives qui sont plus ou moins acceptables. Il y a celle du Bhoutan, par exemple. Le Bhoutan, c'est un pays qui, depuis des années, a mis une sorte de barrière de l'argent. Pour aller au Bhoutan, si vous voulez visiter le pays, il faut s'engager à dépenser plusieurs centaines d'euros par jour pour pouvoir y aller. Et puis, il y a d'autres solutions alternatives qui sont peut-être plus intéressantes, comme des tirages au sort. Je crois qu'il y a un site naturel canadien, où vous vous inscrivez à un tirage au sort qui va vous permettre d'avoir justement droit à ce permis qui vous permettra d'aller sur ce site.
Maïa Mazorette.
Oui, il y a un problème aussi, c'est la hiérarchisation des lieux par la beauté. On a toujours les 10 plus beaux villages de France, les 10 trucs à faire dans tel ou tel pays. Et c'est sûr que quand on part en vacances, une fois de temps en temps, qu'on n'a que 2 semaines, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, pourquoi aller voir le 3e truc le plus beau? On a tous envie de voir le mieux.
Et puis, il ne faut pas oublier l'influence des Instagrammeurs, des blogueurs qui cherchent les plus belles images à faire rendant certaines destinations éminemment désirables. Rémi Knafou, vous le rappelez dans votre livre, le problème c'est que des lieux naguère inaccessibles, réservés à quelques aventuriers ou scientifiques, sont maintenant proposés par des tours opérateurs. Je pense aux destinations polaires, aux grands déserts chauds par exemple. Comme vous le remarquez justement, les bouts du monde reculent de plus en plus.
Et oui, ils reculent de plus en plus. Ils sont de plus en plus attirants aussi parce qu'on a les moyens techniques de s'y rendre en avion. Finalement, en quelques heures, la Terre devient petite. Et donc, ce qu'on remarque au fil des années, c'est que ce qu'on appelle l'écoumène touristique, c'est-à-dire la partie exploitée touristiquement de la Terre, se confond presque complètement maintenant avec la planète. Donc on peut effectivement aller partout, et je ne suis pas sûr que la solution à l'avenir du tourisme soit d'aller absolument partout. Je crois que dans ce qui vient d'être dit précédemment, il ne faut pas confondre tous les lieux touristiques. Bon, il est évident que le tourisme est un secteur économiquement très important, et pas simplement économiquement. D'ailleurs, c'est important pour tout le monde de pouvoir aller vers les autres, vers un ailleurs, etc. Bon, ça n'est pas discutable. Donc, les flux vont se poursuivre à l'évidence. Mais tous les espaces ne sont pas égaux face au tourisme. On parlait de la Côte d'Azur. La Côte d'Azur est un espace intégralement transformé depuis longtemps. Donc là, il est nullement question d'instaurer le moindre quota ni le moindre restriction. Les quotas et les restrictions, c'est pour des sites très remarquables qui sont identifiés comme étant fragiles et pour lesquels il faut instaurer une régulation. Ça se fait dans différents endroits, aussi bien à l'Alhambra de Grenade qu'au Machu Picchu. Mais après, faut-il encore que les autorités gestionnaires aient l'envie réelle d'appliquer les quotas en question. Sur le Machu Picchu, par exemple, ça n'est pas le cas, encore qu'il soit pas saturé en ce moment, mais une personne. Mais même en période de pointe, il est rarement saturé. Mais on voit bien que les quotas, de toute façon, ne sont pas non plus toujours la solution si les autorités gestionnaires ne veulent pas les mettre en œuvre. Et ça, c'est un problème général, je trouve, dans les lieux. Parce que là aussi, si on ne veut pas confondre tous les lieux, les lieux du surtourisme, les lieux qui sont les plus convoqués, comme cela a été rappelé très justement, ce sont les lieux, quand on les connaît pas encore et qu'on découvre un pays, ce sont les lieux qu'on veut voir en premier. C'est tout à fait normal. Si on fait plusieurs milliers de kilomètres ou même plusieurs centaines de kilomètres seulement, c'est pas pour aller voir des lieux secondaires, mais c'est pour aller voir des lieux importants. Donc là, de toute façon, il va y avoir un afflux, et les gestionnaires des lieux en question n'ont pas toujours la vertu nécessaire pour le courage politique pour pouvoir, dans certains cas, mettre les régulations en place. Le cas de Venise est extrêmement éclairant. Les responsables vénitiens ne cessent de pousser les hauts cris, mais en même temps, ils ne font rien pour lutter contre, par exemple, les navires de croisière. Il a fallu attendre la pandémie, alors qu'il y avait un plan qui existait depuis 8 ans pour écarter les navires de croisière de la Giudecca. Et il a fallu attendre la pandémie, c'est-à-dire qu'au moment où il n'y avait plus personne, pour qu'on décide de manière assez théorique que les navires iraient s'ancrer un peu plus loin. Donc on voit bien que on veut avoir dans ces lieux le beurre et l'argent du beurre. Et qu'on ne vienne pas nous dire que les Vénitiens sont écrasés par le tourisme, parce que là, ils en vivent. Oui. Ce sont des lieux qui sont complètement dépendants du tourisme. Ils en vivent. Avec la pandémie, beaucoup d'entreprises sont exsangues. Beaucoup d'entreprises sont endettées. Ils attendent le tourisme avec impatience.
Rémi Knafou, j'aimerais qu'on entende le point de vue de Laurent Tillon, spécialiste en biodiversité. Laurent Tillon, vous nous écoutez depuis tout à l'heure.
Oui, je vous écoute. Et c'est vrai que, par exemple, là, ce que je viens d'entendre, je rejoins à la fois ce que disent vos autres invités, et en même temps, je me dis qu'il faut que le gestionnaire puisse avoir les moyens. Je vais vous citer juste un exemple. Juste avant la pandémie, en Île-de-France, on était amené, nous, par exemple, à ramasser jusqu'à 1600 tonnes de déchets par an dans les forêts. Ça coûtait près d'1 million d'euros au gestionnaire, qui est l'ONF, pour ramasser, en fait, tous ces déchets. Alors que pourtant, on invite les gens à les emmener avec eux. Je crois qu'on en parlera peut-être un peu après. Mais en tout cas, tout ça pour dire que la gestion du public et la gestion justement de cette affluence vers les milieux naturels, c'est quelque chose qui peut être parfois un petit peu compliqué et qui peut dépasser complètement le gestionnaire. Et c'est vrai que notamment après l'épisode pandémique, notamment le premier confinement, on a bien vu, hein, on a eu une affluence record dans toutes les forêts, en particulier les forêts domaniales qui étaient à proximité des grandes villes. Je vous raconte pas, moi-même, en famille, dès qu'on a eu la possibilité de sortir, on est allé dans nos coins habituels, en forêt de Rambouillet. Il y avait du monde comme jamais, j'en avais vu, simplement tous les chemins, même ceux qui étaient un petit peu plus à l'intérieur de la forêt, étaient occupés. Donc c'est vrai qu'il y a une attractivité vraiment plus forte, on s'est rendu compte du besoin de nature qu'on avait, et du besoin du coup d'y avoir accès, d'avoir accès à tout type d'espace naturel.
En quelques mots, Laurent Tillon, vos conseils pour ne pas trop dégrader la forêt, quand on va y aller hein, cet été, on va être nombreux à se balader partout en France en forêt, vos conseils vraiment fondamentaux, Laurent.
Et puis je vous y invite hein, vraiment à y aller. Alors déjà, la première chose que je peux vous dire, c'est qu'à la limite, sur Internet, sur le site de l'ONF, vous avez une charte, ce qu'on appelle la charte du promeneur, dans laquelle vous avez plein de conseils. Mais parmi les grands conseils que je vous dirais, la première chose, c'est vraiment de bien se préparer. Et bien se préparer, ça veut dire bien s'équiper, ça veut dire avoir des bonnes chaussures adaptées pour la marche en forêt. Bien sûr, prendre de l'eau, en même temps, faire attention, parce que quand vous vous promenez, notamment dans nos forêts, vous vous rendez compte que dans certains cas, vous pouvez être confronté notamment à des tiques. Voilà, c'est des petites bêtes qui peuvent se glisser sous les vêtements et d'avoir, par exemple, des pantalons avec des bonnes chaussures limite complètement la possibilité d'attraper ces petits animaux indésirables.
Oui, mais Laurent, pour préserver l'environnement quand on va se balader en forêt, quels sont vos conseils?
Vraiment, pour préserver l'environnement, ce qui est important, c'est de regarder les secteurs sur lesquels vous pouvez aller. Il y a des endroits avec des sites protégés qui peuvent accueillir du public, d'autres moins. Généralement, ces endroits-là sont indiqués sur les cartes et puis vous en avez plein d'autres qui paraissent assez jolis, qui sont peut-être moins mis en avant et effectivement, vous pouvez y aller. Alors, j'entendais Maya tout à l'heure qui disait qu'on a envie d'aller tout de suite sur le site le plus attractif, le numéro 1. Mais parfois, sur le numéro 3 ou le numéro 4, vous avez quand même des choses intéressantes. Et puis, restez sur les chemins en faisant bien attention quand, par exemple, vous avez des animaux, des chiens, à pas les lâcher dans le sous-bois, même si vous avez l'impression qu'ils reviennent très très vite. En réalité, ça peut déranger toute une faune sauvage qui est très sensible au dérangement.
Et puis, Laurent Tillon, emporter avec soi dans son sac un sac poubelle, pour emporter ses déchets et ne pas salir, dégrader la forêt que l'on visite. Jean-Baptiste Tréboul, un conseil très rapide, s'il vous plaît, pour éviter donc de trop polluer quand on est un touriste cet été.
Faut essayer de ne pas aller toujours au même endroit au même moment, donc de venir très tôt sur un site, soit entre midi et deux, soit tard le soir. Et donc d'essayer de varier les horaires et varier les périodes. C'est-à-dire que le mois de juin est très calme, il y a pas beaucoup de touristes en ce moment, mai est très élevé, juillet août aussi, donc partir septembre, octobre, un peu plus tard. Voilà, faut vraiment garder l'envie pour les plus beaux sites, mais ne pas y aller quand il y aura tout le monde. Ça, c'est relativement simple à faire.
Sandrine Mercier.
Par contre, on arrête de partir à New York 3 jours, on arrête sur un coup de tête pour 30 €, d'aller à Lisbonne. Si vous voulez, quand on paye pas le juste prix, c'est quelqu'un d'autre qui paye.
Et d'ailleurs, Muriel nous écrit, une amie part à Séville la semaine prochaine avec un billet d'avion à 10 €, aller-retour avec une compagnie low cost. Est-ce vraiment la fin d'un modèle? Sandrine Mercier, en quelques mots.
Oui, on peut circuler justement en train pour éviter l'avion. Par exemple, c'est vraiment reconnu comme le mode de transport motorisé le moins polluant. Les chiffres de l'ADEME, par exemple, disent qu'à taux de remplissage égal, quand vous faites un Paris-Marseille en train, vous produisez 10 fois moins de CO2 plutôt qu'en avion et vous émettez pareil moins qu'une voiture. Donc le train revient à la mode. Jean Castex lui-même l'a pris, il l'a dit. Donc c'est vraiment la revanche du train. Utilisons le train, ça va bien repartir. Il prend sa revanche.
Et Sandrine Mercier, on peut privilégier des destinations peu connues comme la route des vins du côté de Fronton qui n'est donc pas frappée par le surtourisme.
Exactement, c'était l'envie. Effectivement, on vous emmène dans ce AR spécial Plus belle route des vins à Fronton parce que vous êtes de Toulouse et on va partir à 30 km au nord de Toulouse, juste à la sortie de la ville. Et d'ailleurs, c'est un vignoble qui n'est pas très connu, Fronton, mais en termes durables, il se porte bien puisqu'il y a presque 20% maintenant des vignerons qui sont en bio parce que justement, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus s'installer et pour eux, c'était une évidence de produire sainement, enfin de ne pas polluer la terre. Et donc, on a une visite dans ce vignoble avec des gens, mais on rencontre vraiment des copains, quoi. Vous rencontrez ces vignerons, ils sont heureux, ils produisent, ils utilisent la négrette, qui est un cépage noir qui donne des vins mais super aromatiques, super fleuris. Et on fait des balades, mais alors les paysages sont pas, c'est pas grandiose, c'est pas la vallée du Rhône ou c'est pas ça.
Ne dites pas de mal de ma région, s'il vous plaît, Sandrine, merci.
Non, mais on y va vraiment pour les gens. Les gens, c'est des vignerons heureux. On les rencontre, on est entre Toulouse et Montauban. Montauban, guillemette. On ne devrait jamais quitter Montauban.
Ça, je suis tout à fait d'accord.
Les tontons flingueurs.
Ouais, c'est dans quel film? Voilà, les tontons flingueurs. Et bien, il y a le château, par exemple, de la Colombière qui a su jouer avec ce film. Et ils ont sorti une bouteille qui s'appelle les frontons flingueurs. Et sur l'étiquette,
ça s'appelle. Est-ce que c'est un petit goût de prune, de pomme, ça rend pas aveugle ceux qui les boivent?
Non, un petit goût de réglisse, un petit goût de violette. Et sur l'étiquette, il y a même la réplique j'ai connu une Toulousaine qui en buvait au petit déjeuner. Donc, voilà. Et ils ont une très belle cave en briques avec des concerts aussi là pendant tout l'été. Il y a le festival Musique en Vigne avec des soirées guinguettes. Il y a des pointures qui viennent se produire. Et on les verra aussi au Château Cazes, par exemple. Alors là, c'est une femme, elle est incroyable. C'est Martine Rougevin-Baville. C'est la troisième génération de femmes sur ce domaine. Déjà, son arrière-grand-mère, avant sa grand-mère, tenait le domaine, le Château Cazes. Et ils ont aménagé dans le chai. Elle a gardé, Martine, tous les vieux foudres, les vieux pressoirs, tous les ustensiles dédiés à la viticulture. Donc, ça fait que quand on va déguster le vin, on est dans le chai. C'est comme dans un petit musée. Et il y a aussi les concerts qui ont lieu là pendant l'été. Donc, on est dans le village de Villaudric. Je vous conseille vraiment d'y aller. Et on va finir en musique parce qu'il y a quand même un Anglais qui s'est installé dans le domaine du bois de Devet. C'est un ancien batteur rock anglais. Et donc, il a mis ses batteries. On voit ses batteries dans le chai, dans la cave. Et comme ça, il vous fait résonner les notes de musique pendant que vous dégustez le vin.
Et c'est à lire dans le magazine AR consacré aux plus belles routes des vins. Merci beaucoup Rémi Knafou, réinventer le tourisme. C'est publié aux éditions du Faubourg. Merci Laurent Tillon et merci Jean-Baptiste Treboul. On peut retrouver votre revue Espace avec à la une 1000 raisons de croire à un tourisme responsable, positif et joyeux. Allez, il est temps de retrouver la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
Thibaut de Saint-Maurice, vous vous réjouissez de revoir les visages démasqués dans la rue.
Ben oui, Alice, ça y est, enfin, nous pouvons commencer donc de tomber le masque depuis hier, alors en extérieur seulement. Mais franchement, qu'est-ce que ça fait du bien? Alors, allons-y gaiement, dévisageons-nous les uns les autres. On retrouve des bouches, des nez, des joues pleines avec leurs pommettes ou leurs fossettes, des mentons qui frémissent sous l'émotion, des sourires qui découvrent les dents, des lèvres qui font la moue. Bref, quel plaisir de retrouver cette richesse inopinée du visage de celui ou de celle que je croise. Appuyons un peu nos regards les uns les autres sur les visages des autres et des uns. Bon, bien sûr, sans faire peur et toujours avec le sourire. Mais retrouver les visages de ceux que l'on croise, afficher nos visages, porter nos visages dans la rue, c'est retrouver la possibilité de se présenter aux autres et de reconnaître leur altérité, là, d'un coup d'œil ou d'un seul regard. Nos visages expriment notre singularité. Il n'y a pas deux visages identiques. Même ceux des jumeaux s'animent de subtiles différences pour qu'ils les observent suffisamment précisément.
Mais on ne peut pas non plus réduire notre identité à notre visage, mon cher Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, bien sûr, Ali. Je ne suis pas que mon visage ou je ne suis pas seulement la surface et l'agencement de mon visage. Ce n'est pas parce que je vois la bouche et le nez de mon interlocuteur que je le connais mieux. Nos visages sont aussi des constructions sociales, des généralisations, les visages d'hommes, les visages de femmes, les visages d'enfants, les visages de vieux, les visages multicolores. Les visages écrans sur lesquels se projette aussi bien le désir que la peur des autres. Comme le remarquait Deleuze, le visage est une carte. Mais une carte construite et qu'il s'agit de déconstruire ou de défaire pour que nous puissions, à travers lui, rencontrer l'autre. Défaire le visage, donc, dévisager au sens strict, ça veut dire ne pas fixer les visages des autres comme des identités définitives, ne pas séparer le visage des paysages intérieurs ou extérieurs qui l'entourent. Dévisager le visage, non pas comme une surface, mais comme une profondeur dans laquelle nous pouvons découvrir les forces et les émotions qui l'animent. Il y a bien ce mystère du visage immédiatement identifiable et qui pourtant change tous les jours. Mystère, hein, de ce visage composé d'éléments communs. On a tous un nez, une paire d'yeux, une bouche, des lèvres, et séparément ou en grand plan, eh bien, ils ne sont à personne, mais recomposés ensemble, ils signalent pourtant la différence de chacun. Voilà, nous dévisager les uns les autres, c'est prendre le temps de considérer nos visages à la fois comme surface et comme profondeur de notre identité. Cette richesse-là hein, du visage, c'est ce qui faisait dire à un autre philosophe, Emmanuel Lévinas, que le visage de l'autre nous oblige. Dans cette nudité profonde qu'il présente à celui qui sait le dévisager, le visage des autres est une invitation à considérer sa vulnérabilité, une vulnérabilité à protéger. Lévinas pense ainsi à l'expérience du visage comme le fondement de la responsabilité qu'on a pour les autres. Voilà, eh bien le paradoxe, c'est que même démasqués, nous pouvons continuer de nous protéger les uns les autres en nous dévisageant.
Ce qui était bien, Guillemette, avec le visage, avec le masque, c'est que quasiment tout le monde était beau.
Oui, absolument. Mais et on regardait plus les yeux. Mais c'est vrai que c'est très beau. En fait, le visage, c'est aussi une promesse. Donc là, la promesse, elle était à moitié jusqu'à présent. Maintenant, elle est totale.
Et vous pouvez écouter ou réécouter toutes les chroniques de Thibaut de Saint-Maurice sur l'appli et le site de France Inter. Et c'est le film Enchanteur de Guillemette Audicino, un film signé Billy Wilder avec Marilyn Monroe.
I can feel the goose pimples.
Goose pimples?
Mais ce film,
you know why.
C'est temps de réflexion.
Alors, c'est temps de réflexion. Alors, évidemment, l'extrait est en VO. Hein, alors, Marilyn, pas en VO. Comment vous dire? Alors, c'est la canicule. Alors, j'ai pas décidé de faire la météo. Hein. C'est la canicule dans le film. C'est la canicule à New York. Alors, Richard a emmené sa femme et son fils à la gare. Ils sont partis en vacances, mais pas lui. Alors, il est célibataire pour quelques semaines. Ce publiciste qui a beaucoup d'imagination. D'ailleurs, au point de se rêver séducteur irrésistible. Et de discuter tranquillement à voix haute avec lui-même. Il se jure de ne pas boire, en l'absence de sa femme, de ne pas fumer, de ne pas draguer. Alors déjà que ce genre de promesse n'est pas facile à tenir en général, alors là ça devient carrément impensable, car sa voisine du dessus est Marilyn Monroe. Alors quand elle débarque dans le petit monde d'un homme démangé par le démon de l'adultère, évidemment, ça dérange énormément. Alors c'est dans ce film, bien sûr, que l'on peut voir la fameuse scène où la robe blanche de Marilyn se soulève au-dessus de la grille d'aération du métro. Sauf que vous savez la photo légendaire où on la voit totalement en pied sur la grille. Bah en fait, cette image-là, elle est pas dans le film. Nous sommes le 16 septembre 1954 et Billy Wilder tient à tourner la séquence en conditions naturelles sur Lexington Avenue. Pour que l'équipe soit tranquille, il décide de tourner à minuit. Mais au bout de quelques minutes, voilà qu'un attroupement de 5000 personnes se forme. En plus, Marilyn est fatiguée, elle bute sur son texte. Au bout de 40 prises, Wilder abandonne. Et la scène sera en fait tranquillement retournée en studio. Et dans le film, on ne voit que le bas. C'est-à-dire, on voit juste la jupe qui s'envole, les magnifiques jambes de Marilyn. Et elle, au-dessus, on entend sa voix qui fait « ouche, ouche », c'est vraiment délicieux. Alors, ce film, c'est mais une critique, mais absolument, mais délicieuse et burlesque des obsessions sexuelles et de la frustration du mâle américain de base. Et avec une magnifique scène, on a entendu l'extrait, sur un tabouret. Alors, c'est une scène de consentement, d'une certaine manière. Il tente de l'embrasser tel un Don Juan de pacotille. Ils tombent tous les deux à la renverse. Il est vraiment confus, il est complètement ridicule. Il dit « Je suis désolé, ça ne m'arrive jamais ». Et Marilyn sublime répond, toute de candeur, « Oh ben moi, ça m'arrive tout le temps. » Donc, elle est absolument divine dans ce film, avec cette chose qui à la fois a fait sa légende et qui a créé tant de malentendus. Elle paraît un peu cruche, et en même temps, elle ne cesse de balancer des vérités sur l'amour et la féminité, tout en trempant des chips dans le champagne. Et surtout, non seulement elle se rafraîchit sur des grilles d'aération, mais elle s'incruste chez ce type qui a l'air conditionné. C'est marrant, un type a l'air conditionné pour draguer. Et surtout, idée géniale, elle met ses sous-vêtements dans le frigo pour les refroidir. Alors mesdames, si vous avez vraiment très chaud, mettez votre culotte au congélo.
Et messieurs aussi, ça fait du bien aussi.
Tout le monde.
C'est temps de réflexion à regarder ce week-end en famille. Maya, qui ne supporte pas qu'on la vous voit pendant sa chronique sexe, tu vas parler du beau sexe et plus précisément du beau sexe des hommes.
Oui, et je veux pas balancer, mais c'est Julien Bisson qui m'a réclamé ce sujet. Moi, j'étais prête à faire une chronique hyper sérieuse sur le tourisme responsable, mais bon, quand les collègues sont en détresse, on n'a pas le choix. Alors, le beau sexe des hommes, ça ressemble à quoi? Déjà, pour commencer, bien sûr qu'il y a des beaux sexes. Il y a d'ailleurs des concours de beau sexe. En 2015, des internautes ont élu la plus belle vulve et le plus beau scrotum, avant de se tourner en 2017 vers le plus bel anus indispensable. En revanche, il n'a existé, à ma connaissance, aucun championnat mondial officiel du plus beau pénis, et pour une bonne raison, le promoteur des autres compétitions a pensé qu'il n'y avait pas besoin, parce que tout le monde aurait les mêmes préférences.
Et ces préférences auraient été quoi?
Selon une étude suisse publiée en 2015 dans le Journal of Sexual Medicine, les femmes apprécient dans l'ordre, tu notes Julien j'espère, dans l'ordre donc, l'apparence cosmétique générale du membre, puis sa pilosité, sa peau, sa circonférence, la forme de son gland, la longueur de la rampe, l'apparence des testicules et enfin la position exacte du méa. Notez bien le sens du détail. Ensuite, les standards on les connaît, à l'âge classique c'était le petit pénis au repos, aujourd'hui c'est le grand pénis en érection, inspiré par celui de la pornographie, donc un pénis incarnant la performance dans ce qu'elle a de plus caricatural. Et ça a des conséquences. L'IFOP nous apprend que plus d'un tiers des jeunes de moins de 25 ans ont déjà été complexés par la taille de leur pénis, mais pour l'esthétique, en fait, on n'a pas vraiment de chiffres. Sans doute parce qu'encore aujourd'hui, un beau pénis reste un pénis fonctionnel, cliché typique absolu de la masculinité. L'esthétique s'incline devant le sens pratique.
Mais il y a tout de même, Maya, une dimension esthétique du pénis qui peut exister.
Oui, mais pour ça, il y a deux conditions nécessaires. Déjà, il faut arrêter de dire que le pénis est forcément moche ou qu'il est beau seulement quand il est en érection. C'est pas vrai. Et ensuite, il faut créer des contre-modèles, des contre-exemples, en montrant son pénis. Alors, à des gens qui sont d'accord, évidemment, en oui. Représentant les pénis. Et puis, tout simplement, en étant fier de son pénis, Julien, il est grand temps d'inventer des pénis pride.
Merci beaucoup, Maya.
J'ai pris beaucoup de notes. Voilà,
Grégory Cohen, une petite réflexion.
Je sais pas
quoi dire. Ah, le melon surprise, on attend maintenant.
Oui, voilà, donc belle transition. Belle transition avec le melon surprise de Grégory Cohen. Allez-y, Greg, c'est à vous, on vous laisse. Hein.
Ah, c'est sympa, là. Vraiment.
Est-ce qu'il est cosmétique, ce melon?
On va donc partir sur un melon, hein. Il faut être fier de son melon aussi. Melon de Cavaillon, ils sont très fiers là-bas. 125 grammes de feta, 10 centilitres de Porto Rouge, 2 grammes d'agar-agar. Alors c'est une algue gélifiante naturelle qui n'a pas de goût, d'ailleurs pas de goût d'algue, n'ayez pas peur. Une branche de sarriette d'origan, 3 feuilles de basilic hachées grossièrement, 2 cuillères à soupe de graines de courge, 1 cuillère à soupe de baies roses concassées, de l'huile d'olive, du piment d'Espelette et 150 grammes de chiffonade de jambon. Alors on ouvre le melon en découpant sa tête et on fait des billes à l'aide d'une pomme parisienne ou alors d'une petite cuillère. On réserve la moitié des billes au congélateur et on assaisonne l'autre moitié de piment d'Espelette. On évide le reste du melon et on mixe la chair. Elle aura normalement une consistance de soupe. On va ensuite porter le porto et l'agar-agar à ébullition et on les mélange à la soupe de melon. On place au frais pendant une heure, le temps que la gelée prenne. Ensuite, on met aussi le melon évidé au congélateur. On va l'utiliser comme récipient plus tard. On découpe la feta en petits cubes. On la mélange aux baies roses. On arrose le tout d'huile d'olive et d'une pointe de fleur de sel. On sort le melon et les billes du congélateur. On assemble tout, les billes de melon congelées, les billes de melon au piment d'Espelette, la feta, la gélatine de Porto coupée en petits cubes. On ajoute alors les herbes aromatiques, les graines de courge. On surbombe le tout de chiffonnade de jambon de Parme, on referme avec le chapeau et à la dégustation, on découvre ce mélange aux textures et aux températures surprenantes, le craquant du melon, le porto qui fondra en bouche, la feta, le piment d'Espelette, le tout mis en valeur par les herbes aromatiques, une entrée fraîcheur qui ravira à coup sûr en ces périodes de grand chaud, Maya.
Petite question, si on n'a pas de pomme parisienne, hein, c'est une petite cuillère, c'est ça?
Oui, une cuillère, et on essaie de faire des petites billes avec sa cuillère. Un peu plus compliqué quand même.
Et on peut retrouver votre recette, évidemment, sur votre compte Instagram, Grégory Cohen Off.
Avec deux F.
Merci, on se retrouve évidemment la semaine prochaine, Grégory. Merci à tous, merci à l'équipe de Grand Bien Vous Fasse, Alexia Rivière, Stéphanie Valois, à la préparation avec l'aide de Céline Collinet, Stéphanie Texier à la réalisation, le sympathique duo Elisabeth Collet et Anne-Laure Cochet qui nous accompagnait à la technique tout au long de la semaine. La programmation musicale était signée Muriel Pérez. Merci également aux standardistes de France Inter. Demain, je vous retrouve à 9h55 sur France 2 dans l'émission Bel et Bien avec Christophe André, Agathe Le Caron et André Manoukian. Lundi, dans Grand Bien Vous Fasse, on s'intéresse aux pathologies du goût et de l'odorat. N'hésitez pas à témoigner dès maintenant sur l'appli France Inter en nous laissant par exemple une note vocale. Notre camarade Alex Vizorek témoignera.